même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle,
bonjour, vous êtes sur Atomic Mac. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée antinucléaire qui s'est déroulée il y a une petite dizaine de jours sur Valence. Mais avant cela, la parole est à Vanessa qui veut parler de nos voisins belges, si j'ai bien compris, le ton
oui,
de ton billet.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'actu européenne avec la Belgique, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de lire scrupuleusement la presse quotidienne. Alors, à l'arrêt depuis près d'un an, après la découverte de micro-fissures sur leur cuve, deux réacteurs nucléaires belges étaient sur le point d'être redémarrés, donc en mars. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire avait donné son feu vert, une décision à laquelle le gouvernement disait ne pas pouvoir s'opposer. Nous sommes face à un régulateur indépendant et nous n'avons aucune possibilité d'immixtion, expliquait alors la ministre belge de l'Intérieur. Mais les écologistes, qui ne l'entendent pas ainsi, demandent un débat au Parlement. Nous allons poursuivre le gouvernement devant les tribunaux, a affirmé Éloi Glorieux, membre de Greenpeace. À cause de cette décision, dit-il, les risques d'un accident nucléaire sont plus importants. Or, Electrabel, filiale du groupe français GDF Suez et principal exploitant du parc nucléaire belge, a connu de nouveaux soucis donc, qui ont été détectés fin mars. Le groupe a pris connaissance donc des résultats de tests de résistance menés sur un acier semblable à celui des deux réacteurs concernés, mis à l'arrêt durant de longs mois après la découverte en 2012 de micro-fissures sur les cuves. Ce qui avait alors privé le royaume de 2 gigawatts, soit un tiers de la capacité nucléaire du pays. Les tests visaient à déterminer la solidité de l'acier et sa réaction au vieillissement et aux radiations continues. Leurs résultats ont été jugés non conformes aux attentes. Electrabel, évoquant le principe de précaution primordial pour tout exploitant responsable, a annoncé dès lors une nouvelle mise à l'arrêt, relançant du même coup la polémique sur l'état exact des cuves, de nouvelles expérimentations devant avoir lieu. Les premiers examens réalisés dans un réacteur du Centre d'études de l'énergie nucléaire à Mol auraient engendré de sérieux motifs d'inquiétude, confirme une source scientifique anonyme. Ils ont été conduits sur une pièce provenant d'un générateur de vapeur fabriqué par Areva, qui présentait des micro-fissures dues, selon des experts, à l'hydrogène. Alors, je n'entrerai pas dans le détail, mais le contenu précis des tests n'a pas été divulgué, mais ils auraient indiqué que la cuve était moins résistante que prévu. L'Agence fédérale belge de contrôle nucléaire a réagi avec prudence, refusant toute conclusion avant la réception du dossier d'Electrabel, qui lui sera remis après les tests complémentaires. L'attitude des autorités de contrôle ne convainc pas les organisations de défense de l'environnement, qui pensent toujours qu'Electrabel n'aurait pas dû recevoir l'autorisation de redémarrer les réacteurs litigieux. Les Verts européens estiment que la Belgique a pris une décision hâtive et dangereuse, même si l'AFCN, donc l'autorité de sûreté nucléaire de Belgique, soulignait à l'époque l'absence de dangerosité et que l'exploitant concluait à un défaut de fabrication dénué de risque. L'agence se défend en affirmant avoir obtenu toutes les garanties nécessaires après consultation d'experts nationaux et internationaux. En réalité, ces experts n'étaient pas unanimes et certains responsables soulignaient que les anomalies des unités belges pourraient se reproduire dans une vingtaine d'installations étrangères. Rassurant. Les réacteurs en cause sont les plus modernes du parc, ce qui est encore plus rassurant. Et avec une capacité cumulée de 2000 MW, ils fournissent un tiers de la capacité nucléaire belge. Les problèmes de sécurité des deux réacteurs ont relancé le débat sur le nucléaire en Belgique. Electrabel exploite 7 réacteurs dans le royaume, qui doivent être progressivement mis à l'arrêt définitif d'ici 2025, au moment où ils auront 40 ans. Les problèmes rencontrés par les deux réacteurs les plus récents ont conduit le gouvernement à envisager le plan de sortie du nucléaire et à prolonger la durée de vie du plus vieux des réacteurs. La Belgique ralentit donc son processus d'arrêt du nucléaire alors qu'une loi avait été votée en ce sens en 1999, déjà 15 ans. Tandis que d'autres ont opté pour un arrêt de cette énergie néfaste, la sortie du nucléaire civil a en effet été mise en place en Autriche en 78, en Suède en 1980, en Italie en 87, en Belgique, donc c'était ce qui avait été voté en 99, en Allemagne en 2000 et dans la province du Québec en 2013. Et elle a été discutée dans d'autres pays. L'Autriche interdit notamment l'exploitation de l'énergie nucléaire depuis un référendum de 78, renforcé par une loi, puis inscrit dans la Constitution en 99. Quant à l'Espagne, elle a des lois qui interdisent la construction de nouvelles centrales nucléaires. Voilà, donc ça c'était un petit point sur l'actualité européenne, et il y a quand même des exemples à suivre, et je pense que ça fera l'objet d'un billet prochain.
Et qu'on n'attende pas ce qui s'est passé à Fukushima au moment où New York Times du 21 mars 2014, donc c'est vraiment tout près, déclare que l'état actuel de l'environnement autour de Fukushima est, je cite, « lamentable ». Je pense que Georges, tu vas pouvoir nous prouver cela.
Oui, je vais vous faire un genre de panorama sur la situation actuelle. Anand Grover, rapporteur spécial des Nations Unies qui s'est rendu à Fukushima en 2012, a rappelé à Tokyo ce mois-ci qu'une recherche adaptée sur Fukushima et son impact sur la santé continue à faire défaut. Il y a 3 ans après Fuku, des médecins ont cherché dans la préfecture de Fukushima des kystes, des nodules et des tumeurs inhabituelles indiquant des cancers de la thyroïde. Un effet possible des radiations. Le nombre des tumeurs est alarmant, mais aussi surprenant car les cancers de la thyroïde n'apparaissent que 5 ans après l'exposition aux radiations. Quelle doit être la réaction des médecins et responsables sanitaires de cette information, en sachant que le pays a l'intention de redémarrer ses réacteurs et de laisser les réfugiés de Fuku revenir dans certaines zones évacuées? Le résultat, c'est que toute étude indiquant que l'exposition aux radiations peut avoir des effets délétères ne peut qu'entraver ce mouvement vers le progrès économique. Et le moyen, c'est de mettre fin au financement et en imposant une culture du secret, faisant en sorte que les chercheurs hésitent à parler à la presse. Pour mémoire, un article de David McNeil du 16 mars dans le New York Times. Un autre témoin, Kem Buesler, scientifique américain étudiant la pollution marine au large du Japon, a déclaré au Times que les chercheurs ont reçu l'ordre de ne pas parler à la presse, ou bien ils ne se sentent pas à l'aise pour parler à la presse sans permission. La question, c'est pourquoi le gouvernement japonais ne finance-t-il pas la recherche sur les conséquences des émissions de césium et de strontium venant de Fukushima sur la chaîne alimentaire? Il aurait tout à y gagner. Compte tenu de cette situation, un autre pays ou organisme suffisamment influent pourrait réclamer une évaluation indépendante des risques sanitaires de Fukushima pour le Japon. Or, Tokyo va accueillir les Jeux Olympiques d'été de 2020, car le Premier ministre Shinzo Abe a assuré au président du CIO du moment que Fukushima était dans de bonnes mains. Or, la mort de nombreux travailleurs de Fukushima suite à leur exposition à la radioactivité est censurée par TEPCO et par le gouvernement japonais, d'après Madame Mako Oshidori, journaliste japonaise indépendante, qui a découvert une note de TEPCO donnant instruction aux responsables de couper court à ces questions de manière inappropriée. Elle a été suivie par la police de façon intimidante. C'est ce qu'elle a révélé pendant une conférence internationale sur les effets des catastrophes nucléaires sur l'environnement naturel et la santé humaine. D'après son interview d'un infirmier de la centrale de Fuku, plusieurs travailleurs de cette centrale sont morts. Seuls ont été rendus publics les décès de ceux qui sont morts au travail. Les autres donc morts en dehors du temps d'activité, non évoqués, et bien sûr non comptabilisés dans le nombre de décès de travailleurs. Par exemple, ceux qui finissent leur contrat de travail après une forte irradiation, soit 50 ou 60 ou 70 millisieverts, et sont morts un mois après, sont donc non reconnus. À Hirono, situé à 30 km de la centrale, les habitants ont d'abord été confinés avant d'être encouragés à partir. 6 mois plus tard, arrêt d'évacuation avec un arrêt d'indemnisation stoppé au bout d'un an, en août 2012. Résultat, peu d'habitants sont rentrés, avec sur 5000 habitants avant la catastrophe, 1352 revenus. L'économie locale ne repart pas. Enfin, l'idée des autorités qui est de confier des dosimètres et radiomètres aux habitants pour qu'ils adaptent leur mode de vie pour réduire leur dose externe, à savoir objectif 1 millisievert par an, quant aux non-évacués ou les partants volontaires, sans soutien, auront-ils droit à des appareils de mesure? Le gouvernement s'est donc déchargé de son devoir de protection des populations. Elles sont discriminées sans consultation démocratique sur la décision de retour individuel ou collectif. La population a perdu confiance dans les autorités. Il y a quand même 75 cas de cancer de la thyroïde diagnostiqués, dont 33 confirmés après intervention chirurgicale, sur 254 000 enfants contrôlés. Il faut aussi ajouter 267 000 réfugiés, dont 100 000 vivent dans des logements préfabriqués. Des citoyens, par l'intermédiaire d'associations comme l'ACRO, association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, qui a aidé à monter un laboratoire citoyen au Japon, ont dû prendre les choses en main. En s'emparant de la mesure de la radioactivité, ils ont obligé les autorités et producteurs à s'y mettre aussi et ont généralisé les contrôles. Enfin, TEPCO rechigne toujours à indemniser les réfugiés car cela devrait lui coûter l'équivalent de 35 milliards d'euros.
Merci Georges. Eh bien, pour dire, pour aller un peu dans ce sens, on va laisser la parole à MC Duval, voilà, avec les désobéissants. Désobéir.
Oui, il était temps.
Hey cousin, te souviens-tu les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003? C'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe. Forteresse, les ghettos, les précaires et des millions de détresses. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse. Rien ne stoppe les publicitaires, ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert. À l'heure actuelle, ne pas mettre un high kick dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. Car pendant qu'il rajoute le mot durable à chaque phrase, il continue de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup de cocouteaux, goutte à goutte, pas démonter tout ça. Faut bloquer les ports, les routes et les villas, les séguer là. Faut grimper les tours des firmes et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la RIA. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yo Mango. Comme l'Assemblée Populaire des Peuples de Oaxaca. Comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther. Comme le mouvement des sans-terres, comme les anti-nucléaires. Rouya, désobéir, c'est maintenant plutôt la mode. On ne peut plus se nourrir de leurs animaux malades. Presque toutes les rivières charrient leurs pesticides. Et silence quand la France supervise un génocide. On entendra toujours dire que tout casser c'est pas bien. Ou le sang piternel, à quoi bon ça sert à rien. On oublie que pour avoir mis la planète à genoux, ils n'ont pas été vraiment pisse compréhensifs et doux. C'est la course contre la montre, il faut maintenant tout péter. Avec les pays du sud, c'est la solidarité. Nous on est truffés d'amour, pas de puce RFID. L'ADN de la connerie, on va tous le décoder. Faut coûte que couteau, goutte à goutte ou pas démonter tout ça. Pour bloquer les Bolloré, les Monsanto, les Areva. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion on leur fout le terroir. Comme le clan du néon, comme les déboulonneurs. Comme le groupe résistance à l'agression publicitaire. Comme les brigades de clowns ou les yes men et leurs phares. Comme le groupe génocide made in France au champ de Mars. Comme le mouvement des Conti défonçant la préfecture. Comme l'appel des 200 mètres, comme l'action des jeudis noirs. Comme l'endurance du réseau, éducation sans frontières. Comme Rocking à Deniso ou Tikenja aux victoires. Les films de Colin Serrault, de Pierre Carl ou Michael Moore. Comme les sites Wikileaks, comme des millions de hackers. Comme SL, Rosa Parks, comme Mandela et Gandhi. Comme Ispera Sankara ou Adolfo Kaminski. Comme les peuples d'Égypte, d'Islande et de Tunisie. Comme ce que l'on fait chaque jour modestement de nos vies. Faut coûte que coûte, on goutte à goutte, ou pas démonter tout ça. Faut bloquer EADS, Dassault, Thompson et Matra. Faut stopper les industriels et faire cesser leurs dégâts. Faut se remonter les manches et dévisser tout leur barda. Faut plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Faut coûte que coûte, on goutte à goutte, ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion on leur fout le terroir.
Eh bien, vous êtes toujours sur Atomic Mac et nous allons. J'étais en train de regarder notre technicienne qui me faisait des signes, etc. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. On n'a pas vraiment un invité, on en a trois et on a choisi de rencontrer plusieurs intervenants à la journée anti-nucléaire qu'a tenu sortir du nucléaire de Romardèche il y a une dizaine de jours. Mais parmi ces trois intervenants, on vous en réserve trois autres pour une prochaine émission. Ces intervenants sont. Ont été invités dans des ateliers qui ont regroupé au total à peu près 300 personnes sur Valence, ce qui était quand même relativement important. Notre première intervenante, c'est donc une interview qui a été faite par notre équipe localement sur place, donc vous ne vous inquiétez pas, il y a un peu de brouhaha dans la salle, mais ça prouve qu'il y avait du monde le 29 mars à Valence. Eh bien, c'est Michel Rivasi et un extrait de l'interview de Michel Rivasi.
Comment les L'État japonais a-t-il communiqué avec les populations sur la dispersion des nucléides après la catastrophe, sachant qu'il disposait du logiciel Speedy qui le renseignait ?
Oui, alors ce logiciel, ils le possédaient, mais ils l'ont très mal utilisé puisqu'ils n'ont pas anticipé le passage du nuage radioactif. Donc ils ont décidé très vite qu'il fallait faire voyez, des cercles. Donc le lendemain, ils ont commencé, enfin même dans les heures qui ont suivi, ils ont commencé à évacuer à 2 km. Mais et puis après, ils sont allés plus loin, jusqu'à 10 km, voyez, le lendemain, etc. Mais tout en disant aux gens, on le fait par principe de précaution. Vous voyez, ils ont dit aux gens, vous ne prenez que le nécessaire, laissez tout, de toute façon, vous allez revenir demain. Et c'est là où c'est scandaleux, parce qu'il y a eu, grosso modo, entre 150 000 et 200 000 personnes évacuées dues à la radioactivité. Il y a eu plus de 400 000 personnes évacuées, mais ça, c'est par rapport au tsunami, hein, parce qu'il y avait, ils avaient plus d'habitat, etc. Et là, on les a complètement désinformés. Et ce qui est grave, c'est que les Japonais n'avaient pas prévu un accident nucléaire. Donc, le programme et le logiciel Speedy, vous voyez, ils l'ont pas utilisé. Et ils se sont pas mis dans la configuration qu'il pouvait y avoir un accident. Ce qui a conduit des gens qui ont été évacués, on les a mis dans un endroit qui était encore plus contaminé. Donc on les a enlevés pour les mettre dans un autre endroit. Il y a des hôpitaux où on a pris que des gens, si vous voulez, qui pouvaient marcher. On a laissé crever les autres parce qu'on est, intervenu trop tard et ils étaient complètement dans une détresse. Grosso modo, on évalue à 2000 décès. Les gens qui, c'est suite à la catastrophe de Fukushima, qui sont morts de stress et de détresse. C'est énorme.
L'autre question, c'était pourquoi l'État japonais a arrêté la délimitation des zones contaminées à l'été 2011, alors que la centrale continue à contaminer.
Bah, écoutez, les zones, on les a définies à l'heure actuelle. Vous savez, vous avez une zone rouge, une zone orange, une zone jaune. Que c'est pas des circonférences. Hein, on a des espèces de taches de léopard. Et en plus, il y a toute une zone au nord-ouest qui a absolument pas été évacuée volontairement parce que on voulait pas indemniser trop les gens. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Il y a des gens à l'heure actuelle qui vivent dans des zones très contaminées. Vous voyez, il faudrait arrêter. Sauf que comme ça coûte une fortune, eh ben on joue sur la vie des gens et on joue sur le fait que les Japonais n'ont pas le caractère quand même aussi des Européens. C'est-à-dire c'est une population qui par l'histoire a toujours, si vous voulez, est très fière et veut pas montrer ses émotions. Vous voyez, la colère est interne. Et donc, ils acceptent. Il y a eu Fukushima, Hiroshima et Nagasaki. Ça, c'était pendant la guerre. Et ils disent, on doit pouvoir résister aussi à Fukushima. Donc, il y a une espèce de fatalisme qui est assez incroyable. Et puis, ils ont plus du tout confiance au niveau des politiques. Mais alors, aucune confiance. Ils sentent qu'ils sont complètement, on leur a complètement menti. Et en même temps, les politiques jouent pas leur rôle de contre-pouvoir. C'est-à-dire que, même des gens qui sont anti-nucléaires, ils s'expriment très peu. Et le monde scientifique que j'ai rencontré, ils n'osent pas dire non parce qu'après, ils vont être critiqués par leurs pairs. Vous voyez, c'est une société assez bloquée, en fait. Et c'est quand même très, très dur à faire bouger les choses.
Vous avez également suivi de près la question de Tchernobyl. Donc là, effectivement, Fukushima, c'est l'actualité brûlante. Mais à Tchernobyl, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Quelle est la situation là-bas ?
La situation, c'est que au niveau de la centrale, on essaie de colmater comme on peut la centrale. On fait une grande arche, si vous voulez, pour protéger la centrale qui fuit un peu de partout. En même temps, après, ils veulent déconstruire, vous voyez, ce qui est en dessous. Donc ça, bonjour, les niveaux de radiation qu'ils vont prendre. Mais il y a quand même cet effet, quand je suis allé plusieurs fois, moi, voir cette arche, cet effet que la technologie va pouvoir enfin cacher, vous voyez, et cette centrale qui a explosé.
Bon. C'est le même mythe à Fukushima aujourd'hui, hein, avec les robots qui interviendront.
Voilà, vous voyez, on veut montrer que le scientisme, vous voyez, que la technologie, effectivement, peut résoudre tous les problèmes. Sauf qu'il y a encore plein de gens qui vivent en zone contaminée, qu'il y a des gens qui sont malades, qu'on ne se donne pas les moyens, si ce n'est que quelques labos, dont les labos français, d'ailleurs, de l'IRSN, qui font des études pour une connaissance interne, mais qui ne la publient pas. Et là, moi, je râle au niveau de l'Europe en disant, mais attendez, vous financez des études, il faut que ça soit publié. Donc, en ce moment, je suis en train de faire le forcing pour que tout soit transparent. Donc on se retrouve toujours dans le même système. On dirait que Tchernobyl c'est fini, mais attendez, 28 ans après, il y a encore des gens qui vivent en zone contaminée, il y a des gens qui sont malades, qu'on a laissé à l'abandon. Moi je parle du génocide radioactif. On laisse les gens à l'abandon, on les oublie et on dit, vous voyez, on a résolu le problème de l'accident du nucléaire. Et Fukushima, ils vont faire pareil. Ils sont en train de dire aux gens, oh, mais il y a des radiations, mais vous voyez, on peut résister, vous, le peuple japonais, vous avez tellement résisté à d'autres choses que vous pouvez le faire. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est la lâcheté et la complicité du monde scientifique d'un point de vue international, la complicité de l'agence, vous voyez, de l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie nucléaire, et c'est tous ces gens-là qui participent à l'opacité, à la désinformation. Et ça, moi, ça me fait mal parce que je me dis, mais comment, vous voyez, même au niveau du Parlement européen, comment il n'y a pas plus de gens qui montent au créneau pour dire arrêtez le mensonge, arrêtez, demain, c'est en Europe qu'on va avoir un accident nucléaire.
Là, oui, je rappelle que Michel Rivasi a mené plusieurs délégations tant à Fukushima qu'à Tchernobyl et qu'elle suit ces dossiers tout particulièrement, on le voit bien. Notre deuxième choix, c'est Alain Joffre qui est des comités gaz de schiste et qui a animé l'atelier sur la transition énergétique et avait une animation participative, donc il va en parler.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Tu as participé aujourd'hui à la journée anti-nucléaire organisée par Sortir du nucléaire en Drôme-Ardèche, donc on t'en remercie. Et donc tu as participé à l'un des débats, l'un des ateliers qui avait pour thème la transition énergétique. Et tu as utilisé une certaine méthode pour participer à cet atelier et pour parler de la transition. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ?
Oui, oui, c'est tout à fait. C'est des techniques participatives pour que les citoyens donnent leur avis. Qu'on a beaucoup utilisé suite à la lutte contre le gaz de schiste en Sud-Ardèche pour ouvrir des débats citoyens sur la transition énergétique, sur le processus de transition énergétique, pour dire. Alors le débat mouvant permet de construire son argumentaire. Chacun est amené à construire son argumentaire en prenant position dans l'espace d'un côté d'accord ou pas d'accord, autour d'un postulat. Et là, le postulat était... Il n'y a pas de véritable transition énergétique sans arrêt immédiat et rapide du nucléaire militaire et civil. Donc les gens participants se positionnent d'un côté ou de l'autre et suivant les arguments peuvent être amenés à changer de position en se rendant compte que les arguments d'un côté sont valables. Donc ils peuvent changer de position et argumenter pourquoi ils changent de position. Voilà le principe. C'est un des modèles interactifs. On fait en général une dizaine de postulats. Après, on peut faire aussi cap à cap, c'est-à-dire je suis prêt à m'engager dans telles actions de transition énergétique, à participer à telle activité, à m'engager, je sais pas, à construire ma maison autonome, ou à me chauffer au bois, ou à covoiturer, etc. Voilà, on peut après, mais je suis peut-être pas prêt à faire ce changement à ce moment-là.
Ok, donc ça a l'avantage de faire réfléchir les participants à toutes ces questions. L'année dernière, tu as participé très fortement à l'organisation du forum sur la transition énergétique à Villeneuve-de-Berg. Quel modèle de transition énergétique, toi, est-ce que tu défends ?
Oui, c'est vrai que ça fut 9 mois de préparation du forum citoyen de la transition écologique et énergétique. En Ardèche, c'était l'idée de passer du non au gaz de schiste à un oui à la transition énergétique et écologique. Et là, on est en train de créer l'association Oui à la transition Ardèche pour réunir toutes les initiatives autour de la transition écologique et énergétique, personnelle et collective, solidaire et sociale, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau communal, intercommunal, associatif, coopératif,
donc,
etc.
Se réapproprier la question énergétique, sachant que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le terme de transition énergétique, les politiciens y glissent souvent une bonne petite part de nucléaire, bien évidemment, dans ton cas, c'est 100, quoi.
Tout à fait. Alors, l'idée, c'est de partir de ce qu'il y a sur notre territoire, de voir faire l'inventaire des initiatives qui existent déjà. Et c'est pas que la transition énergétique, c'est aussi la transition alimentaire. C'est des besoins essentiels, que ce soit se loger, se nourrir, se chauffer, se déplacer, qui paraissent essentiels et qui sont à résoudre localement dans la proximité de nos territoires. Et c'est cette idée-là qu'on veut mettre en avant et autour d'une carte interactive d'initiatives sur notre site qui permettra de visualiser les initiatives qui existent et peut-être celles qui restent à créer. qui après sont à imaginer, à constituer pour s'engager réellement dans un processus de transition. Après, définir la transition d'une manière théorique, c'est un peu risqué parce que, en fait, elle est liée, je pense, à des représentations que tout le monde a, mais c'est lié aussi à ce qui existe sur un territoire. Donc, après, les besoins personnels, les besoins collectifs sont des fois pas tout à fait les mêmes. On peut faire un pointage, mais on n'est pas dans un code moral de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'après, c'est collectivement et coopérativement que les choses doivent se déterminer sur un territoire, avec certains élus, avec certains décideurs ou pas.
Voilà, vous pouvez retrouver Alain Joffre et son association sur Internet à l'adresse suivante.
oui-transition07.org.
And the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac et nous sommes toujours dans le relais un petit peu de la semaine, de la journée du 29 mars à Valence, où nous avons parlé de tout un tas de sujets dans des ateliers qui ont été très pleins. 300 personnes se sont présentées quand même à Valence pour l'ensemble de cette journée. Et parmi nos choix d'interviews, puisqu'on en a plusieurs encore une fois, on les repassera dans d'autres émissions, on en a profité parce qu'on a rencontré Pierre Péguin. C'est la première fois qu'on le rencontrait, militant du Gard, ancien animateur du réseau Sortir du Nucléaire et qui surtout travaille beaucoup sur le projet Amarcool, le projet Astrid, peu connu des Drômois et Ardéchois, alors qu'on connaît Tricastin, tout ça, on ne voit pas ce qui est en train d'essayer de se construire tout près de nous à Amarcool. Et donc Pierre Péguin, la parole est à lui.
Bonjour Pierre, tu participes aujourd'hui à la journée antinucléaire organisée par Sortir du Nucléaire en Drôme-Ardèche à Valence. Donc tu as participé à un atelier, tu as pas mal évoqué le projet Astrid. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et expliquer ce qu'est le projet Astrid ?
Alors le projet Astrid, c'est la relance de la filière plutonium, c'est-à-dire c'est l'héritier de Phénix et Super Phénix, qui a pour ambition de faire un réacteur qui fonctionnerait au plutonium, et dont le liquide de refroidissement serait le sodium liquide. Alors, ce projet donc est prévu à Amarcool. L'étude est en cours et l'État pourrait donner l'accord pour la construction dès cette année. L'étude a bénéficié d'un budget de 650 millions d'euros. elle a été menée à son terme puisque l'État avait donné son accord pour qu'elle aille jusqu'au bout. Le réacteur devrait être construit à Marcoule et c'est un réacteur de 600 MW, c'est-à-dire presque un demi superphénix, c'est-à-dire quelque chose d'énorme. Et je ne sais pas si je peux rentrer dans le détail davantage.
Ce sera peut-être l'occasion une autre fois, mais donc ce réacteur, il est un petit peu dans la lignée de Phoenix et de Super Phoenix. Comment est-ce qu'on peut expliquer la persévérance de ce choix de filière? Est-ce que c'est un rêve de physicien? Est-ce que c'est un choix politique? Et qui s'occupe de la sécurité des populations quand on sait que cette filière est un véritable cauchemar pour les ingénieurs?
Alors effectivement, c'est pas un rêve d'ingénieur et de physicien, c'est plutôt un choix politique du CEA qui a été créé par De Gaulle à la sortie de la dernière Grande Guerre et dont le but est d'aboutir à une filière française qui serait relativement autonome par rapport aux minerais d'uranium, compte tenu du fait qu'en France, on a beaucoup de plutonium extrait à La Hague et beaucoup d'uranium déjà stocké. Et le CEA travaille là-dessus depuis plus de 50 ans. Il a l'espoir que ça marche, sauf que c'est une filière qui est plus dangereuse encore que la filière des réacteurs à eau d'EDF actuels, qui sont basés sur le procédé Westinghouse, et plus difficile à gérer, plus pointu, dont les risques pour les populations environnantes, quand je dis environnante, c'est dans un rayon excessivement large, le danger serait beaucoup plus grand en cas de fusion des cœurs, du cœur, et puis ça implique toute une industrie du plutonium qu'il faut contester absolument.
Oui, et qui génère pas mal de transports sur tout le territoire. Vous en avez parlé lors de votre intervention tout à l'heure. Qu'en est-il exactement? Quels matériaux doivent être transportés pour faire fonctionner ce réacteur?
Alors essentiellement, le plutonium qui est extrait à La Hague. Donc les combustibles usés des réacteurs à eau qui fonctionnent en France sont envoyés pour être, on dit, retraités à La Hague. C'est-à-dire qu'on en extrait sur les 3% du plutonium qui se sont formés. Il n'y a pas de plutonium au départ dans ces combustibles-là. Mais les réactions nucléaires permettent de transformer quelques pourcents, 3% d'uranium en plutonium. Donc on va en extraire à peu près 2%. On dégage aussi de l'uranium et puis des combustibles usés, des produits de fission qu'on ne sait pas gérer à l'heure actuelle. C'est ingérable d'ailleurs. Et donc ce plutonium qui vient de La Hague, il faut le transporter ensuite à Marcoule en petite quantité dans des emballages plomb qu'on appelle des castors. Et il faut que la quantité transportée ne dépasse pas les 2 à 3 kilos parce qu'avec le double, on a la masse critique qui peut déclencher une bombe atomique, une explosion atomique. Donc voilà, ça implique beaucoup de transport qu'on a déjà d'ailleurs entre La Hague et Marcoule pour la fabrication du combustible MOX, qui déjà utilise un peu de plutonium, quelques pourcents de plutonium dans le combustible, ce qui déjà génère de gros problèmes, comme on l'a vu à Fukushima.
Et pourquoi n'entend-on pas plus parler que ça de ce projet Astrid dans les médias? On a l'impression que c'est un choix quand même relativement important dans les stratégies industrielles de la France, et ce sujet n'est abordé quasi nulle part.
Alors effectivement, c'est un choix qui est essentiel, et on peut penser que le CEA et l'État feront tout pour qu'ils puissent progresser, puisqu'on appelle ça réacteur de quatrième génération, que la France aurait la fierté d'avoir le premier réacteur dans ce domaine, etc. etc. La grandeur du pays est en jeu. Chaque fois qu'on touche au plutonium, on touche finalement à l'État. On l'a bien vu à la manifestation de Malville en 77, où il y a eu mort d'homme et 3 personnes amputées. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que actuellement, c'est pas très facile dans l'équilibre politique où le Parti socialiste a besoin quand même de la présence d'écologistes qui soient pas trop demandeurs, mais un petit peu quand même. Et donc on fait ça en cachette, sans en parler, on refuse de dire que ça se prépare, de façon à ce qu'un jour on peut plus faire autrement que de continuer et donc de donner le feu vert en espérant que ça fasse pas trop de vagues politiques. Or, c'est cette année que l'État devrait, suivant le planning qui était établi, donner le feu vert pour la construction. Construction qui ensuite se préparerait et pourrait débuter en 2017 pour un fonctionnement dans les années 20. Donc on voit l'échéancier actuel, une étude en cours qui consomme 650 millions d'euros, une décision à prendre à la fin de l'année, et ensuite la construction, qui ne touchera pas au prix de l'électricité, qui ne gênera pas EDF, qui n'en a rien à en foutre pour l'instant, parce que c'est financé par l'État à travers le CEA.
D'accord. Eh ben, merci pour toutes ces informations, Pierre. C'est un sujet très intéressant dont on essaiera de parler sur Radio Méga dans l'émission Atomic Mac. On aura peut-être l'occasion de se revoir à une autre occasion. Merci.
Merci beaucoup aussi de m'avoir donné la parole. À bientôt.
Et comme le disait Pierre, on parle peu d'un certain nombre d'informations, mais quand on en parle, par contre, il y a souvent beaucoup de bêtises. Et c'est la rubrique de Jeanne sur la désintox. Aujourd'hui, Jeanne, si j'ai bien compris, c'est les accidents nucléaires.
Voilà. Alors d'abord, pour la catastrophe nucléaire, il y a le off et le on. Le off, c'est que dès les années 50, l'accident majeur est considéré comme l'obstacle principal susceptible de freiner les futures industries nucléaires qui ne veulent pas perdre tous les bénéfices lors d'un dédommagement des victimes. Et ce, d'autant plus que des accidents ont déjà eu lieu. Le risque d'accident est donc finement étudié et aboutit à la mise en place d'un cadre juridique relatif à la compensation des victimes en cas d'accident. C'est le Price-Anderson Act, voté le 2 septembre 1957, qui impose pour la première fois dans l'histoire de l'industrie américaine une limite légale à la responsabilité civile des entreprises, au-delà de laquelle l'État se doit d'intervenir. La démarche américaine est rapidement suivie par la mise en place de législations équivalentes au niveau européen. En 60, la Convention de Paris est signée par 17 pays européens, dont la France. La responsabilité civile des industriels est limitée, mais également celle de l'État. Une part du coût de l'accident est imputée aux futures victimes. Ce n'est qu'à ce prix que l'industrie nucléaire devient compétitive. Alors on nous aurait menti. L'accident était envisagé dès le début et le prix de l'électricité nucléaire ne prendrait pas en compte tous les coûts et en particulier le coût d'une catastrophe. La population supportera les coûts d'une énergie qu'elle n'a jamais choisie. Après le off, on va passer au on. Pendant la décennie 70, EDF affirme qu'une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe, qu'elle ne pollue pas, que naturelle ou artificielle, la radioactivité a les mêmes effets. Le nuage de Tchernobyl a une importance particulière dans l'histoire de l'énergie nucléaire en France. Au lendemain de l'accident, la France se fait remarquer en tant que seul pays européen à ne pas fournir à l'Organisation mondiale de la santé les données chiffrées de contamination radioactive observées sur le territoire national. Elle se contente de rapporter une faible contamination. Le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, y a comme directeur le célèbre Pierre Pellerin, montre à partir du 1er mai 86 l'image d'un nuage s'arrêtant aux frontières. Le gouvernement choisit de ne préconiser aucune mesure préventive individuelle ou collective, alors que les autres pays réagissent tout autrement. L'accident de Tchernobyl est rapidement transformé en France en une exception à part entière. Vulnérabilité des réacteurs soviétiques par rapport aux réacteurs français, à quoi il faut ajouter l'incompétence des opérateurs soviétiques, un accident nucléaire est impossible en France. Les mots qui pourraient entraîner une prise de conscience de la population des dangers du nucléaire subissent un lifting. Les notions d'accident nucléaire, d'accident majeur et de catastrophe sont progressivement remplacées par incident, problème, situation préoccupante ou dégradée. Le terme événement est également employé dans l'échelle internationale de classement d'événements nucléaires. L'événement devient le terme générique pour désigner la catastrophe, l'accident, l'incident ou l'anomalie. Le 11 septembre 2001 fait prendre conscience aux politiques en France et en Europe qu'un attentat sur les centrales nucléaires est possible. En juin 2005, l'autorité de sûreté nucléaire met en place un comité pour la gestion après l'accident nucléaire, mais ces études ne sont pas destinées au grand public. Depuis la catastrophe de Fukushima, la langue de bois commence à se fendiller. Mais il a fallu plusieurs mois pour que l'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire admettent que le cœur des trois réacteurs avait fondu et EDF continue de clamer haut et fort que la centrale de Fukushima résiste au séisme alors que les canalisations se sont immédiatement brisées. La grande majorité des ingénieurs du nucléaire, des hommes politiques et de la population française s'accroche contre l'évidence à la croyance dogmatique qu'une catastrophe nucléaire en France ne peut pas se produire. Monsieur Montebourg parle de la filière nucléaire comme d'une filière d'avenir. Oui, monsieur Montebourg, l'avenir est radieux pour l'industrie nucléaire, peut-être irradié pour les populations, mais chut.
Merci Jeanne. J'étais en train de lui envoyer un petit message en disant 30 secondes. Super.
J'écoute un morceau.
On va passer maintenant à l'agenda.
Ah, déjà,
eh bien, oui, c'est à toi de nous parler de l'agenda. Et ben, on est à peu près dans les temps, donc ça devrait aller.
Parfait. Alors, bon, l'agenda du mois d'avril. Lundi 7 et 14 avril, c'est-à-dire ce soir et lundi prochain, conférence à l'Université populaire présentée par Michel Ramadier, qui est un enseignant, et qui partira avec vous à la découverte de la radioactivité et des radioéléments pour vous présenter l'histoire de la recherche en matière d'énergie nucléaire durant plus d'un siècle. C'est donc à 18h30 à l'Université populaire de Bourg-lès-Valence. Si vous n'avez pas l'adresse, je vous la donne, c'est le 20 chemin de Valentin. Donc ce lundi et lundi prochain à 18h30. Vendredi 11 avril, c'est-à-dire ce vendredi, nous avons l'action rond-point à 18h. Il s'agit donc du rond-point sud de Valence après le centre casino. On y sera, vous pouvez y être aussi. Enfin, si vous passez, faites-nous un petit coucou. Samedi 12 avril, alors ça c'est l'événement, on va dire l'événement du mois, hein, parce que tous les mois il y a quelque chose de primordial. Samedi 12 avril, donc il y a une grande marche contre l'austérité. Alors là, je vais demander à Dominique de nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit.
C'est une grande marche contre l'austérité, c'est aussi un rassemblement de tous les mouvements sociaux, que ce soit les mouvements sociaux sur les sans-papiers, etc., mais aussi les anti-nucléaires qui réclament à ce gouvernement qui avait pris un certain nombre d'engagements, lui réclament de les tenir. Donc voilà, c'est un peu la coordination de toutes ces promesses non tenues qui descendent dans la rue. Il vaut mieux le faire tous ensemble que séparément.
Voilà, donc plus on sera nombreux, mieux ce sera. Donc c'est une grande marche qui a lieu sur Paris et qui est organisée donc dans le cadre, comme vous l'avez compris, dans le cadre de ce qu'on appelle la globalisation des luttes. C'est donc une grande manifestation. Je vous invite à vous rendre à 14h à Paris, métro République. Alors sachez qu'évidemment, au départ de Valence comme au départ de Lyon, il y a des cars qui peuvent vous y emmener. Le départ est prévu de Valence à 5h du matin et de Lyon à 6h, et le retour le soir est prévu vers 2h du matin, donc grosse journée. Le coût de l'aller-retour se situe entre 20 et 40 euros pour 40 euros pour les plus riches d'entre nous, enfin riches, tout est relatif. Voilà, la suite, lundi 28 avril, nous avons notre réunion mensuelle de sortir du nucléaire 2607, toujours à la Frapna et toujours à 18h30. Enfin, tous les samedis, l'action carte PPI qui perdure à 11h30, porte neuve. Alors je rappelle toujours, carte PPI, c'est PPI, plan particulier d'intervention, c'est la circonférence concernée par un éventuel accident et voilà, bon, enfin, on vous expliquera tout ça sur le marché,
dans les écoles,
voilà.
Etc.
Voilà, comment ça se passe, à quoi vous avez droit, etc. dans ce cadre-là. Voilà, et tous les dimanches, dire non au nucléaire, allez visiter et liker la page Facebook de dire non, tous les dimanches, dire non au nucléaire. Voilou pour le mois d'avril. Je vous laisse en vous souhaitant un joli mois et je cède la parole pour conclure l'émission de ce jour à Dominique, notre pirate intergalactique.
Merci Vanessa. Cette émission, bon, comme vous l'avez compris, donc c'était une émission un peu exceptionnelle avec les débats de notre journée antinucléaire. Nous referons une prochaine émission avec Didier Latorre et François qui ont animé l'atelier sur les transports. Marie, une jeune militante de Bure sur les enfouissements des déchets nucléaires. Et tout un débat également sur les énergies alternatives avec André Duny. Donc ce sera dans une prochaine émission. Peut-être pas la suivante, mais on va étaler. On a fait plein d'interviews, on va en profiter et vous en faire profiter. Cette émission a été animée par Jeanne, a été animée par Vanessa, bien sûr aussi par notre technicienne, mais qui a fait aussi les interviews, Céline, par Georges, notre billettiste de Fukushima, Et bah, par moi-même, Dominique Malraux. Voilà.
Bonne journée à
tous. Et puis, bah, on va vous laisser avec, comme on a beaucoup parlé de nucléaire et que le nucléaire, c'est de l'argent, on s'est dit que les Pink Floyd pouvaient très bien conclure cette émission. Je vous rappelle également que vous pouvez nous joindre sur notre répondeur le 08 05 69 67 58. C'est sur notre site. Et sur le site, justement, de Sortir du nucléaire dans Mardèche, www.sdn26-07.org.